Bonjour à tous, Liliane sur Radio Grand Ciel qui vous emmène au XVIIe siècle en compagnie de Jean de La Fontaine. Les deux mulets. Deux mulets cheminaient, l'un d'avoine chargée, l'autre portant l'argent de la gabelle. Celui-ci, glorieux d'une charge si belle, n'eût voulu pour beaucoup en être soulagé. Il marchait d'un pas relevé et faisait sonner sa sonnette. Quand l'ennemi se présentant, comme il en voulait à l'argent, sur le moulet du fisc, une troupe se jette, le saisit au frein et l'arrête. Le mulet, en se défendant, se sent percé de coups. Il gémit, il soupire. « Est-ce donc là, dit-il, ce qu'on m'avait promis? Ce mulet qui me suit du danger se retire, et moi j'y tombe et je péris. » « Ami, lui dit son camarade, il n'est pas toujours bon d'avoir un haut emploi. Si tu n'avais servi qu'un meunier comme moi, tu ne serais pas si malade. » Le petit poisson et le pêcheur. Petit poisson deviendra grand pourvu que Dieu lui prête vie. Mais le lâcher en attendant, je tiens pour moi que c'est folie, car de le rattraper, il n'est pas trop certain. Un carpeau, qui n'était encore que fretin, fut pris par un pêcheur au bord d'une rivière. Tout fait nombre, dit l'homme en voyant son butin, voilà commencement de chair et de festin, mettons-le en notre gibecière. Le pauvre carpillon lui dit en sa manière, que ferez-vous de moi? Je ne saurais fournir au plus qu'une demi-bouchée. Laissez-moi carpe devenir, je serai par vous repêché. Quelque gros partisan m'achètera bien cher, au lieu qu'il vous faut chercher peut-être encore 100 de ma taille, pour faire un plat. Quel plat? Croyez-moi, rien qui vaille. Rien qui vaille? Eh bien, sois, répartit le pêcheur. Poisson, mon bel ami, qui faites le prêcheur, vous irez dans la poêle. Et vous avez beau dire, dès ce soir, on vous fera frire. La poule aux œufs d'or. L'avarice perd tout en voulant tout gagner. Je ne veux pour le témoigner que celui dont la poule, à ce que dit la fable, pondait tous les jours un œuf d'or. Il crut que dans son corps elle avait un trésor. Il la tua, l'ouvrit, et la trouva semblable à celle dont les œufs ne lui rapportaient rien, s'étant lui-même ôté le plus beau de son bien. Belle leçon pour les gens chiches. Pendant ces derniers temps, combien en as-tu vu qui du soir au matin sont pauvres devenus pour vouloir trop tôt être riches? Le lion s'en allant en guerre. Le lion dans sa tête avait une entreprise. Il tint conseil de guerre, envoya ses prévôts, fit avertir les animaux. Tous furent du dessein, chacun selon sa guise. L'éléphant devait sur son dos porter l'attirail nécessaire et combattre à son ordinaire. L'ours s'apprêtait pour les assauts. Le renard ménageait de secrètes pratiques. Et le singe amusait l'ennemi par ses tours. Renvoyez, dit quelqu'un, les ânes, qui sont lourds, et les lièvres, sujets à des terreurs paniques. Point du tout, dit le roi, je les veux employer. Notre troupe sans eux ne serait pas complète. L'âne effraiera les gens, nous servant de trompette, et le lièvre pourra nous servir de courrier. Le monarque, prudent et sage, de ses moindres sujets sait tirer quelque usage et connaît les divers talents. Il n'est rien d'inutile aux personnes de sens. Le vieillard et l'âne. Un vieillard sur son âne aperçut, en passant, un pré plein d'herbes et fleurissant. Il y lâche sa bête, et le grison se rue au travers de l'herbe menue, se vautrant, grattant et frottant, gambadant, chantant et broutant, et faisant maintes places nettes. L'ennemi vient sur l'entrefaite. « Fuyons, dit alors le vieillard. « Pourquoi ?» répondit le paillard. « Me fera-t-on porter double bas, double usage ?»« Non pas, » dit le vieillard, qui prit d'abord le large. « Et que m'importe donc, » dit l'âne, « à qui je sois ? Sauvez-vous et me laissez paître. Notre ennemi, c'est notre maître, je vous le dis en bon François. » Le cerf se voyant dans l'eau. Dans le cristal d'une fontaine, un cerf se mirant autrefois, louait la beauté de son bois et ne pouvait qu'avec peine souffrir ses jambes de fuseau dont il voyait l'objet se perdre dans les eaux. « Quelle proportion de mes pieds à ma tête » disait-il en voyant leur ombre avec douleur. « Des taillis les plus hauts, mon front atteint le faîte. Mes pieds ne me font point d'honneur. » Tout en parlant de la sorte, un limier le fait partir. Il tâche à se garantir, dans les forêts il s'emporte. Son bois, dommageable ornement, l'arrêtant à chaque moment, nuit à l'office que lui rendent ses pieds, de qui ses jours dépendent. Il se dédie alors et maudit les présents que le ciel lui fait tous les ans. Nous faisons cas du beau, nous méprisons l'utile, et le beau souvent nous détruit. Ce cerf blâme ses pieds qui le rendent agile. Il estime un bois qui lui nuit. Le villageois et le serpent. Ésope conte qu'un manant, charitable autant que peu sage, un jour d'hiver se promenant, alentour de son héritage, aperçut un serpent, sur la neige étendue, transi, gelé, perclus, immobile rendu, n'ayant pas à vivre un quart d'heure. Le villageois le prend, l'emporte en sa demeure et, sans considérer quel sera le loyer d'une action de ce mérite, il l'étend le long du foyer, le réchauffe, le ressuscite. L'animal engourdi sent à peine le chaud que l'âme lui revient avec la colère. Il lève un peu la tête et puis siffle aussitôt, puis fait un long repli, puis tâche à faire un saut contre son bienfaiteur, son sauveur et son père. « Ingrat, dit le manant, voilà donc mon salaire, tu mourras !» À ces mots, plein d'injustes courroux, il vous prend sa cognée, il vous tranche la bête. Il fait trois serpents de deux coups, un tronçon, la queue et la tête. L'insecte sautillant cherche à se réunir, mais il ne peut y parvenir. Il est bon d'être charitable, mais envers qui? C'est là le point. Quant aux ingrats, il n'en est point qui ne meurt enfin misérable. Le singe. Il est un singe dans Paris à qui l'on avait donné femme. Singe en effet, d'aucun mari, il la battait. La pauvre dame en a tant soupiré qu'enfin elle n'est plus. Leur fils se plaint d'étranges sortes. Il éclate en cris superflus, le père Henri, sa femme est morte. Il a déjà d'autres amours que l'on croit qu'il battra toujours. Il hante la taverne et souvent il s'enivre. N'attendez rien de bon du peuple imitateur, qu'il soit singe ou qu'il fasse un livre, la pire espèce, c'est l'auteur.
Eh bien, allez, dansez maintenant.